France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
L'Institut Pasteur à Paris va accueillir début juin la première conférence internationale axée sur la recherche de la vie miroir. Quelles questions de biosécurité ce domaine suscite-t-il ? Regardez vos mains, la droite et la gauche sont les images miroirs l'une de l'autre, identiques mais non superposables. Ce principe de chiralité se retrouve à tous les niveaux moléculaires. Les constituants de la vie sont asymétriques. Ils n'existent que sous une seule forme dans la nature. Mais que se passerait-il si nous parvenions à créer leur reflet ou à fabriquer une bactérie miroir? Comme l'écrivait Pasteur en 1860, qui pourrait prévoir ce qu'il se passerait si l'albumine du sang, aujourd'hui gauche, devenait droite? Peut-être qu'un nouveau monde se présenterait à nous. Aujourd'hui, les scientifiques sonnent l'alerte. Vie miroir, entre rêve et chiralité. Michel Morange, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes professeur émérite de biologie à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques et l'auteur de la biographie inédite de Pasteur parue chez Gallimard en 2022. Hervé Schneweis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche CNRS et président du comité d'éthique de l'INSERM. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources et sur notre compte @science. CQFD. Alors pourquoi fabriquer des molécules miroirs? Où en est-on dans leur conception? Et quelles pourraient être les conséquences de ces recherches? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, qu'est-ce que la chiralité? La question est posée en 1984, c'est notre archive du jour.
Eh bien, les molécules qui ont cette propriété de n'être pas identiques à leur image dans un miroir, donc qui sont chirales, sont très nombreuses et elles sont, enfin, dans le cas des molécules de la vie, elles sont essentiellement basées sur le carbone. Le carbone qu'on appelle le carbone dissymétrique, nous verrons tout à l'heure, je crois qu'il faudra le dire avec un peu plus de précision, que les quatre valences du carbone qui sont orientées, mettons, dans les quatre directions des sommets d'un tétraèdre, peuvent être occupées par des substances qui sont associées au carbone d'une manière différente, d'une manière différente de façon chirale, c'est-à-dire dans lesquelles l'image dans un miroir n'est pas superposable. Et ça, c'est une particularité du carbone qui a joué un rôle considérable dans justement la chimie chirale. Je rappellerai alors à ce point de vue-là quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez dit que c'est caractéristique de substances de la vie, enfin la matière qui provient des êtres vivants, d'avoir une certaine chiralité, soit à droite, soit à gauche dans le cas des acides aminés, mais que c'est à droite dans d'autres cas. Eh bien, cette propriété, on l'a recherchée, par exemple, dans les météorites, en se disant, il y a des corps carbonés dans les météorites, est-ce que dans ces corps carbonés, il n'y aura pas des corps qui ont une chiralité? C'est-à-dire, si on trouvait des substances qui ont effectivement une orientation de ce genre dans les météorites carbonées, ça pourrait faire penser qu'il y a effectivement une vie dans ces planètes d'où proviennent ces météorites.
On pourrait donner une origine vivante de certains corps.
On pourrait penser qu'il y a, disons, à l'origine de ces substances-là, des êtres vivants. Or, on n'a en fait jamais trouvé, dans les météorites, de corps ayant de la chiralité.
Voilà un extrait de l'émission Les Grandes Avenues de la Science Moderne, diffusée sur France Culture en 1984, et la voix de Pierre Auger, physicien et professeur à l'Académie des Sciences. Hervé Schneweis, on l'entend dans cette archive, à l'importance de la chiralité dans la nature.
Alors l'importance, je ne sais pas, peut-être Michel Morange va en parler, mais la réalité, c'est-à-dire que depuis qu'on observe les molécules et qu'on est capable d'aller dans la structure des molécules, on a observé qu'elles tournaient soit à droite, c'est le cas de la fameuse double hélice d'ADN, c'est aussi le cas de l'ARN, donc qui transporte l'information de l'ADN vers les protéines. Et puis, au contraire, donc les protéines, on vient d'entendre parler des acides aminés. Les acides aminés, c'est un peu les perles qu'on enfile sur un pour faire un collier, et le collier, ça serait la protéine. Et donc, les protéines, elles, à cause de ces acides aminés qui sont orientés à gauche, elles tournent à gauche. Alors, c'est une observation, c'est comme ça. Et l'une des choses les plus extraordinaires, alors, c'est pour ça aussi qu'on va reparler tout à l'heure de ce deuxième arbre de la vie, alors parlons déjà du premier, c'est que comme il y a une unité du vivant, c'est-à-dire que tous les organismes vivants proviennent de la même origine, et ensuite il y a eu l'évolution du vivant et des espèces, eh bien, tout ce qu'on connaît de vivant sur Terre, pour l'ADN, pour l'information génétique, tourne à droite, et pour les protéines, tourne à gauche.
Votre réaction également, Michel Morange, à l'écoute de cette archive?
sur en tout cas le fait que cette dissymétrie fondamentale, pour compléter ce que vient de dire Hervé Schneweil, cette dissymétrie fondamentale, on l'observe partout.
On l'observe partout, mais en particulier chez les êtres vivants, quand même. Parce qu'il y avait, effectivement, il y a des structures comme les hélices qu'on retrouve même dans nos constructions. On a aussi des hélices droites et des hélices gauches pour dans des escaliers ou autre chose. Donc, il y a une asymétrie fondamentale. Mais pour les chimistes, quand ils font la plupart de leurs synthèses qu'ils fabriquent des composés, et que ces composés ont, comme c'était dit dans l'émission, par exemple, un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone qui a quatre substituantes différentes, dans la grande majorité, l'extrême majorité des cas, il y a maintenant quelques expériences où on arrive à obtenir une forme, mais dans la majorité des cas, on obtient un mélange de deux formes déviant la lumière dans des sens opposés, la lumière polarisée, puisque c'est une des manières de repérer ces substances. Donc le chimiste, la chimie ordinaire, si on peut dire, au laboratoire, ne fabrique pas une substance plutôt que l'autre. Alors que la vie, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, la vie justement a fait le choix. Et elle a fait le choix pour les acides aminés. Ces sucres, etc.
Ces travaux, en effet, cette histoire de la découverte de la chiralité, ça commence en 1811 avec les expériences de François Arago. La chiralité est d'abord une notion introduite en cristallographie, mais c'est Louis Pasteur qui est le premier à avoir mis en évidence l'origine moléculaire de la chiralité. On le connaît tous pour la vaccination, mais on oublie qu'il était chimiste avant tout, Michel Morange.
Oui, à mon avis même, c'est là qu'il a fait peut-être les travaux les plus remarquables, même si, la vaccination contre la rage est quand même quelque chose de remarquable. Mais c'est vrai, c'est là qu'il montre le plus l'originalité de son esprit. D'autant que, remettant dans le contexte, à l'époque où Pasteur va faire cette hypothèse, on parle bien de molécules, mais on n'a aucune idée exactement de ce qu'on désigne ainsi. En particulier, à l'époque, il y a un débat qui commence à apparaître entre ceux qui pensent que, il y a des éléments mais qui sont joints, et puis d'autres, comme les atomistes, qui pensent que c'est la réunion, en fait, de particules matérielles qui s'assemblent avec une forme très particulière. Et le débat est loin d'être tranché. Personne n'imagine ce que pourrait être la forme des molécules. Même Pasteur va parler toute sa vie d'arrangement moléculaire pour désigner justement peut-être une forme, mais enfin, ça reste absolument imprécis. Donc le mérite est d'autant plus grand. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on raconte quand même l'expérience fondamentale qui a conduit Pasteur à cette hypothèse.
Ça c'est joli, Pasteur et ses pastels et la lithographie, c'est une histoire qui est assez jolie à raconter en effet.
Mais peut-être un tout petit peu avant son expérience scientifique, et puis je dirai après pourquoi il a fait justement, il a pu faire cette hypothèse. Alors l'expérience scientifique, c'était que naturellement, il y a une substance qu'on appelle le tartrate qui était très utilisée en particulier pour teindre les tissus. C'était une substance qu'on se trouve lors de la formation du vin, de la vinification, mais qui était purifiée dans des fabriques. Et ce tartrate, c'est le tartrate droit. C'était, une seule substance. Alors, on dit droit parce que, justement, on savait déjà que il déviait la lumière polarisée, ce qui était le critère pour ces substances, donc, et qui laissait penser qu'il y avait quelque chose de spécial dans. Mais parler de structure à l'époque, c'était vraiment audacieux, et même personne n'en parlait. Et puis, il se trouve que par hasard, dans une petite entreprise dans les Vosges, qui purifiait le tartrate, on a isolé une autre substance qu'on a appelée le paratartrate. Alors, elle était absolument identique du point de vue de ses propriétés chimiques, mais elle ne déviait pas la lumière polarisée. Pasteur étudiait déjà le tartrate parce qu'il formait de très beaux cristaux. À l'époque, il travaillait sur les cristaux et comparait les cristaux. Il y avait l'idée derrière que le cristal, la forme du cristal, devait être en relation avec la forme, entre guillemets, des constituants qui étaient dedans. Donc, il étudiait déjà les cristaux de tartrate. Et il remarqua qu'il y avait une petite anomalie, ce qu'on appelle une hémiédrie, qui était asymétrique dans ces cristaux. Et on avait déjà, sur d'autres substances, relié la présence d'une asymétrie dans le cristal à la déviation de la lumière polarisée. Le Mitscherlich, un chimiste allemand, avait comparé donc les deux tartrates, le vrai tartrate et le paratartrate, et n'avait pas vu de différence, je vous ai dit, du point de vue chimique. Pasteur, maintenant, et même sur les cristaux, Pasteur regarde les cristaux du paratartrate, et il s'attendait à ce que le paratartrate, puisqu'il ne déviait pas la lumière polarisée, il n'y ait pas cette petite déviation, cette petite anomalie qui était asymétrique, dissymétrique. Et or, il en voit une. Et c'est là où est son mérite, parce qu'en observant mieux, et c'est une qualité de Pasteur, c'est un très bon observateur, il observe que parmi les cristaux de paratartrate, il y a deux types de paracristaux qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, il y a en fait deux substances qui sont mélangées au sein du cristal de paratartrate. Il va séparer... Il va séparer les deux types, quand on cristallise, on a plusieurs petits cristaux qui se forment, donc il sépare les cristaux d'un type et d'un autre, il va les dissoudre et il va montrer effectivement qu'il retrouve, dans un cas, le tartrate déjà connu, et dans un autre cas, une substance totalement inconnue. Et c'est là qu'il fait sa grande hypothèse que probablement ces deux substances, comme leurs cristaux, sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors, je peux revenir à la lithographie.
Mais en effet, ce que vous dites dans votre biographie à propos de Pasteur, Pasteur parvient vite à l'idée que l'identité d'un objet de son image dans un miroir, c'est-à-dire la symétrie, était une exception dans la nature, même s'il n'avait pas une vision claire de la structure des molécules et de l'origine de la symétrie. Et en effet, on a aussi ce jeune Pasteur qui peint des pastels et des lithographies et qui est aussi face à ce concept de l'image l'une de l'autre dans un miroir.
Oui. Alors, c'est un chimiste américain récemment, Joseph Gall, a fait remarquer que c'était probablement là qu'on pouvait trouver au moins l'origine de l'originalité. Ça n'explique pas, mais Pasteur faisait d'abord des pastels et puis il est passé à la lithographie. Et quand on lit ses lettres, il dit que c'est très difficile de faire de la lithographie parce que l'image qu'on va obtenir de la lithographie, on fait un dessin sur une plaque, donc une pierre au départ, puis après ça a été du métal, et puis ensuite on va mettre dessus, disposer un papier, et c'est ce papier qui portera l'image. Donc Pasteur dit, je fais un portrait là de mon ami, mais je suis pas sûr que ça va donner quelque chose de ressemblant. Alors je prends la lithographie et je la regarde dans un miroir, puisque je sais que sur le papier j'aurai en fait l'image miroir de ce qu'il y a sur la pierre. Et ça prouve que Pasteur a compris exactement ce qu'était l'image miroir, c'est-à-dire l'image dans un miroir quand elle n'est pas la même que la molécule de départ. On dit, mais évidemment il ne le dira pas lui-même, que c'est là qu'il a fait cette hypothèse que, en fait, les deux molécules de tartrate qu'il avait identifiées étaient l'image l'une de l'autre dans un miroir.
Par la suite, Pasteur a cherché à faire ses expériences en tentant de créer des êtres qui auraient eu des formes inverses. Pasteur est un des premiers à essayer de tenter de reproduire la chiralité.
Oui, tout à fait. Et on peut dire qu'il est un peu le père de ce qu'on parle aujourd'hui, des organismes miroirs. C'est Anne Diarra, une historienne des sciences, qui avait relevé déjà il y a longtemps ces travaux de Pasteur, peu connus parce que, évidemment, ça n'a jamais marché. Et on pourra se poser la question si ça va marcher maintenant, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Mais il a fait plein d'expériences. Il a fait ce qu'on appelle une recherche tous azimuts pour essayer, alors sur des mélanges de molécules, par exemple, sur droite et gauche. Il a fait ensuite sur des plantes. Alors l'idée, son idée de base, c'est que, en fait, le chimiste savait pas faire ça parce que dans les organismes, il y avait une structure particulière ou des forces particulières qui permettait d'avoir la symétrie. Donc il fallait trouver quelles étaient ces forces. Ça pouvait être les champs magnétiques, les champs électriques, ça pouvait être même les mouvements de la lumière. Il a essayé donc sur des plantes qu'il exposait à un mouvement inverse de la lumière, sur des bactéries, etc. Bon, rien n'a marché.
Ouais, ils se demandent si ce ne sont pas les radiations qui pourraient expliquer l'homochiralité actuelle. Alors, quelles sont les motivations scientifiques, ceux d'aujourd'hui, à travailler sur la vie miroir? Quels seraient les problèmes qui pourraient advenir si des agents pathogènes inversés, comme des bactéries miroirs, s'étendaient dans l'environnement? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Michel Morange et Hervé Schneweis, nous parlons de la recherche en microbiologie de la vie miroir ou comment les scientifiques cherchent à créer des bactéries miroirs. On vient de parler de l'histoire de Pasteur et de sa découverte d'une origine moléculaire de la chiralité. À l'époque, parce que Pasteur parle de dissymétrie moléculaire, c'est plus tard que le terme apparaîtra avec William Thomson, Lord Kelvin. Aujourd'hui, décembre 2024, un collectif de 38 scientifiques publie dans Science une alerte. Ce collectif interpelle toute la communauté scientifique au sujet de cette recherche sur les bactéries miroirs et livre un récit catastrophe. C'est une tribune, Hervé Schneweis, qui s'accompagne d'un rapport de 300 pages et qui propose un récit plutôt catastrophique.
Alors, catastrophique potentiellement. En tout cas, c'est de la responsabilité des scientifiques, quand on voit se développer un champ particulier, d'essayer de prévoir, d'anticiper. C'est un des grands principes de l'éthique, c'est d'anticiper et d'essayer de regarder les conséquences et d'assumer ces conséquences. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit aujourd'hui un champ disciplinaire qui se développe déjà depuis plus d'une trentaine d'années, avec beaucoup de choses intéressantes, aussi bien sur le plan fondamental que pratique, qui s'appelle la biologie de synthèse. Et cette biologie de synthèse, au fond, elle reprend le flambeau des chimistes du 19e siècle dont on vient de parler. Au fond, puisque la vie est composée de molécules chimiques, est-ce qu'on ne serait pas capable de reproduire la vie ? Pour essayer de comprendre comment ça marche, essayons de recréer la façon dont ça marche. Et donc, les choses ont commencé avec des molécules, un assemblage de molécules, et ça donne des choses assez extraordinaires. Il y a depuis presque 30 ans maintenant un concours international d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, c'est des équipes de jeunes, ça s'appelle iGEM, et ils essaient, à partir de briques du vivant, de construire quelque chose qui n'existe pas. Donc, est-ce qu'on serait capable de faire quelque chose qui n'a pas déjà été vu ? Et ça donne aussi tout ce qu'on connaît en ingénierie tissulaire, avec des choses extrêmement prometteuses, pas encore pour l'instant au-delà de la recherche fondamentale, mais on est capable aujourd'hui non seulement de produire des cellules, de les faire se multiplier, mais de commencer à avoir des choses qui ressemblent un peu à des tissus, on appelle ça des organoïdes, donc ça a la forme, l'architecture, ça a la diversité cellulaire et surtout, ça a la fonction. Et ça pourrait, dans les années qui viennent, permettre une greffe ou une suppléance de rein, une greffe ou une suppléance de foie. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, cette ingénierie tissulaire qui s'est développée à grande vitesse, elle est extrêmement intéressante. Et puis, comme toujours, les scientifiques sont des gens curieux et ils se posent des questions. Et la chiralité en fait partie. Pourquoi l'ADN tourne à droite ? Pourquoi les protéines tournent à gauche ? Et est-ce que ça pourrait marcher autrement ? C'est-à-dire, est-ce que les protéines pourraient tourner à droite, au lieu de tourner à gauche ? Et ça peut avoir aussi des intérêts même thérapeutiques. C'est-à-dire que tout le vivant, il est construit pour être produit, donc la construction du vivant, le développement, mais il est aussi fait pour être renouvelé, parce que ces protéines, elles s'abîment, elles s'oxydent. On est dans un environnement assez difficile pour le vivant, qui est l'oxygène. L'oxygène produit des réactions, des radicaux libres. Et donc, les protéines, au bout d'un moment, il faut les dégrader. Donc, il y a des enzymes qui servent à construire les protéines, puis il y a des enzymes qui servent à les dégrader. Si vous pensez à une protéine d'intérêt thérapeutique pour traiter une maladie, vous voulez la donner et vous ne voulez pas qu'elle se dégrade. Or, les enzymes qui sont faites pour dégrader les protéines, qu'est-ce qu'elles connaissent ? Elles connaissent les protéines qui tournent à gauche. Si vous arrivez à créer une protéine qui tourne à droite, elle va être invisible, elle va être non reconnue par l'enzyme. l'enzyme ne va pas réussir à l'attraper. C'est un peu comme si vous essayez de mettre le gant droit à la main gauche ou le gant gauche à la main droite. Ça ne va pas marcher, vous n'allez pas réussir à rentrer la main. Eh bien, voilà. Eh bien, si la protéine ne peut pas être dégradée, elle va durer plus longtemps. Donc, elle va avoir son efficacité plus longtemps. Ça peut avoir un intérêt. Et de proche en proche, on se dit, bah, pourquoi on ne ferait pas des usines à protéines? Donc, plutôt que de les faire une par une, pourquoi on n'arriverait pas à trouver un ADN qui, cette fois-ci, tournerait à gauche et qui, du coup, avec un ARN qui tournerait à gauche, produirait des protéines qui tourneraient à droite? Et du coup, bah, on fabriquerait des cellules qui fabriqueraient elles-mêmes les protéines d'intérêt thérapeutique. Vous voyez, de proche en proche, et avec une logique qui se tient, on arrive à faire les choses.
Mais on comprend bien les enjeux, en tout cas, les objectifs qui motivent les recherches actuelles.
Et puis,
le mystère de la vie, la cellule artificielle thérapeutique.
Et tout d'un coup, vous avez des gens qui sont un peu des grains de sable, des empêcheurs de tourner en rond, qui fait « Ouais, c'est super bien votre truc, mais s'il n'y a rien pour l'arrêter, il n'y a rien pour l'arrêter. » C'est-à-dire, si ça ne se dégrade pas, et si maintenant vous arrivez à faire votre petite usine à fabriquer les protéines, bah, qu'est-ce qui se passe si jamais à un moment, y en a un peu qui part dans l'atmosphère, il y en a... Alors, gens vont dire, mais non, c'est tellement fragile, ça peut pas aller bien loin. Et puis, de toute façon, si on est capable de faire ça, on est capable aussi de faire des molécules qui les arrêteraient. Vous savez, toujours, c'est pas grave le changement climatique. On est capable de remédier au changement climatique. En attendant, ça chauffe et on ne sait pas comment on va arrêter le réchauffement. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent, écoutez, peut-être qu'avant de se lancer dans ces histoires, on devrait réfléchir à tous les scénarios possibles. Et puis, comme quand vous prenez une assurance, vous ne prenez pas une assurance parce que vous allez avoir un accident, vous prenez une assurance au cas où. Eh bien, les éthiciens, ils sont un peu comme ça, ils disent, et si on imaginait un scénario catastrophe, qu'est-ce qu'on ferait? Quel serait le remède? Et là, les braves gens qui nous font les molécules qui râlent disent, on ne sait pas bien.
On ne sait pas bien et on verra en effet les risques dans quelques instants. Je reviens sur les motivations scientifiques avec vous, Michel Morange, sur le fait voilà, que ce sont des recherches qui sont motivées pour essayer d'éclaircir le mystère de l'origine de la vie. Selon vous, créer un organisme miroir, ça contribuerait à aller dans ce sens-là, à percer ce mystère-là?
Ça répondrait peut-être à certaines questions, sur en particulier pourquoi comme on l'a dit, pour les acides aminés, c'est une série particulière. Pourquoi pour les sucres, c'est une autre série? Peut-être que ça répondrait à certaines questions. Au moment là où Pasteur le faisait, je pense qu'on était absolument fascinés par cette découverte de la dissymétrie moléculaire et que c'était tout à fait normal, au fond, d'essayer de la changer, même brutalement, même avec des moyens qui étaient plus ou moins efficaces. Je dirais qu'aujourd'hui, à mon avis, la vie dissymétrique, si on y parvient, c'est comme même les auteurs le disaient, il faudra au moins 10 ans, et c'était, je pense, un délai minimum. C'est un travail absolument gigantesque. Je ne suis pas sûr que ça répondra vraiment à une question fondamentale, parce qu'à mon avis, la dissymétrie moléculaire, elle n'est qu'une conséquence de la spécificité des interactions chimiques au sein des êtres vivants. Dès que vous avez des interactions étroites entre macromolécules, dont on rend bien compte par le modèle de la clé et de la serrure, donc une interpénétration, si vous avez des molécules qui sont dissymétriques, qui peuvent exister sous deux formes, il est clair qu'il faudra en choisir une pour que ça soit spécifique.
En effet,
le choix n'est pas... est obligatoire.
Donc, la symétrie de la vie, en effet, n'est pas une cause, comme vous dites, ni une caractéristique de la vie, mais bien une conséquence. Vous venez d'évoquer un délai sur le fait de la réalisation de ce projet dans un futur proche, d'ici 10 ans. Hervé Schneweis, concrètement, est-ce qu'on est sur le point d'atteindre ces technologies? Quels sont les progrès qui ont été faits dans le domaine qui vont dans ce sens, dans la fabrication d'une cellule miroir?
Alors, les progrès récents, c'est que on a été capable de traduire, de faire des molécules. Donc, vous savez, tout est, comme a dit Michel, interaction moléculaire dans le vivant. Donc, vous avez l'information génétique qui est sous forme d'ADN. Donc, cet enchaînement de sucres en double hélice. Pour arriver à en faire des protéines, il faut la traduire d'abord en un autre sucre qui s'appelle l'ARN, puis la traduire encore une fois dans une machinerie, d'une fabrique à protéines qui s'appelle le ribosome. Eh bien, il y a un an et demi, deux ans, il a été possible déjà de franchir la première étape, c'est-à-dire traduire un ADN qui tournait à gauche en un ARN qui tournait lui aussi à gauche grâce à une enzyme qui, elle, tournait à droite. Donc, créer la première étape, hein, c'est vraiment du basique de chez basique, on ne peut pas faire plus basique, mais la preuve de concept qu'il était capable de faire cette traduction dans l'autre sens a été apportée. À partir du moment où, en science, vous apportez une preuve de concept, en général, et surtout dans un domaine où l'ingénierie est reine, vous vous dites, bon, bah, après, ça va dérouler. D'accord, 10 ans, c'est un peu ambitieux, mais si ça prend pas 10 ans, ça peut en prendre 20, ça peut en prendre 30. C'est pas très important combien de temps ça va prendre, hein. Pour démontrer le boson de Higgs, il a fallu 70 ans. Cette personne n'a vraiment été inquiète qu'il faille attendre autant de temps. En tout cas, ça peut advenir. Et à partir du moment où ça peut advenir, il est de la responsabilité des scientifiques qui voient ça, de se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer le jour où ça sera advenu, que ce soit dans 10 ou dans 30 ans.
Oui, c'est que là, pour arriver à une cellule miroir, le prochain défi sera de synthétiser un outil essentiel, donc le ribosome miroir, comme vous dites. Et donc ça, si on y arrive, on se rapprocherait de cet objectif de la vie miroir. Et si on parvenait un jour, admettons, à fabriquer une bactérie miroir, pourrait-elle survivre dans notre monde? Quels seraient les risques? Restez à l'écoute. La chatte miroir en direct sur France Culture, car nous parlons de la recherche sur la vie miroir et des questions de biosécurité que ce domaine de recherche suscite. On en parle avec nos deux invités du jour, Michel Morange, professeur émérite de biologie à l'IHPST, et Hervé Schneweis, neurobiologiste, directeur de recherche CNRS et président du comité d'éthique de l'INSERM. La recherche sur la vie miroir et la chiralité mobilise des techniques en physico-chimie pour mieux comprendre les mécanismes biologiques ou pour des applications à des fins thérapeutiques. À l'Institut des sciences moléculaires de l'Université Paris-Saclay, une équipe développe des procédés innovants pour sonder les environnements chiro. C'est le reportage du jour et c'est avec vous Céline Lozanne, bonjour.
Bonjour Natacha. La chiralité est une propriété fondamentale du vivant qui concerne l'ADN comme les acides aminés. Ces deux versions, gauche ou droite, les énantiomères, ont les mêmes propriétés physico-chimiques lorsqu'ils sont dans un environnement achiral, mais acquièrent des propriétés différentes dans un milieu chiral. Les médicaments chiraux, par exemple, ont souvent une activité thérapeutique énantio-sélective parce que leurs récepteurs dans le corps sont eux-mêmes chiraux. C'est pourquoi il est important de distinguer les deux énantiomères d'une molécule chirale. Pour y parvenir, on peut utiliser des sondes de nature chimique ou bien physique comme le dichroïsme circulaire. Anne Zenecker-Rintien, directrice de recherche CNRS, dévoile ses procédés spectroscopiques dans ses salles d'expérience à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay.
Le dichroïsme circulaire, c'est de façon générale, ça fait partie des spectroscopies qu'on appelle chiroptiques, c'est-à-dire les spectroscopies qui sont sensibles à la chiralité. Et le dichroïsme circulaire, c'est la différence d'absorption par une molécule chirale entre une onde polarisée circulairement droite et circulairement gauche. Et donc, dans mon équipe, on applique ça dans le domaine des vibrations, la spectroscopie infrarouge. C'est un domaine qui est important parce que ça permet d'accéder aux vibrations moléculaires, au mouvement des noyaux. Et donc, c'est sensible à la structure de la molécule, mais aussi à son environnement, aux interactions qu'elle subit. Mais c'est un effet extrêmement petit, c'est de l'ordre de 10-4 à 10-5 de l'absorption totale. Donc, il faut une instrumentation particulière que vous voyez ici.
Alors, il y a des machines très modernes, là, on
oui,
peut
alors,
voir.
Je dirais que là, c'est la salle la plus traditionnelle. C'est celle où on emploie des instruments commerciaux pour faire du dichroïsme circulaire vibrationnel. Donc, vous voyez ici un spectromètre à transformer de Fourier. C'est ce qui permet de faire la spectroscopie infrarouge et qui est prolongé par quelque chose qui permet de polariser la lumière. Ça s'appelle un modulateur parce que c'est un changement de polarisation de droite à gauche extrêmement rapide, de 50 000 fois par seconde. Et ça, c'est indispensable parce que les effets qu'on veut mesurer sont tellement faibles que si on prenait simplement un spectre avec une polarisation droite, puis un quart d'heure après un spectre avec une polarisation gauche, les simples petites variations de concentration, de température d'un demi-degré dans la pièce auraient plus d'influence que la polarisation elle-même. Donc le principe, c'est de varier très rapidement de gauche à droite et de mesurer la variation d'absorption de façon simultanée, de façon synchrone. Ça s'appelle la détection synchrone.
Quelles sont les molécules que vous étudiez et à quelle fin ?
Alors, le but ces dernières années, ça a été vraiment, en collaboration avec des théoriciens, de développer des modèles pour bien représenter le dichroïsme circulaire vibrationnel. Si vous êtes intéressé par les molécules d'intérêt pharmaceutique, c'était le naproxène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui est couramment utilisé en pharmacologie. Et comme beaucoup de molécules administrées à l'état solide, il y a quelquefois des problèmes de solubilité. Donc s'ils sont moins solubles, ils sont moins biodisponibles. Et on peut augmenter la solubilité en faisant des co-cristaux avec une molécule naturelle. Dans notre cas, on a choisi l'analine, enfin des acides aminés ou la sérine. Et donc le VCD a permis, le dichroïsme circulaire vibrationnel, a permis d'étudier la structure de ces co-cristaux en fonction de la chiralité des sous-unités, enfin des conditions, l'humidité, etc. C'est un travail récent qui est encore en cours.
Et donc l'idée, c'est d'optimiser ces molécules pour synthétiser des médicaments plus efficaces ou plus durables ?
C'est déjà de comprendre la structure de ces co-cristaux pour voir comment, effectivement, on peut optimiser leur formation pour les rendre plus solubles, plus faciles à utiliser. On peut aller dans la pièce d'à côté où, au contraire, on a une instrumentation non commerciale qui a été développée au laboratoire. Donc ici, vous voyez, je dirais, la partie immergée de l'iceberg, l'instrument une fois réalisé. Mais il y a tout un travail de services techniques, électroniques, informatiques, mécaniques, qui permettent de construire ces appareils. Alors là, c'est une salle où vous voyez principalement des outils non commerciaux hein, qui ont été construits au laboratoire. Alors, il y a plusieurs types d'équipements. Il y a des lasers dans la pièce d'à côté ici qui servent à faire la spectroscopie puisque notre outil, c'est vraiment la spectroscopie, voir comment les systèmes qu'on étudie absorbent la lumière, comment ils peuvent être caractérisés par la lumière. Donc ça, c'était une expérience qui est plus de physique, je dirais, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure.
Comme vous l'avez dit, on est à l'interface de plusieurs disciplines.
Oui, et c'est une expérience donc, qui a été construite au laboratoire.
C'est une table optique, là.
Alors là, oui, vous avez une table optique, vous avez des enceintes en métal qui sont pompées sous vide par des pompes que vous voyez en bas. Et globalement, ce type d'expérience, elle comporte trois parties. Ce qu'on appelle la source, qui est une façon, un geste supersonique, c'est-à-dire une façon de mettre les molécules en phase gazeuse, tout en les portant à une très basse température. Donc l'idée, c'est de trouver des molécules en phase gazeuse, mais à une température de l'ordre de 10 Kelvin. Alors, cette technologie, elle permet aussi de former ce qu'on appelle des complexes, c'est-à-dire des associations entre deux molécules qui sont faiblement liées. Ce ne sont pas des liaisons chimiques au sens une liaison covalente qui est vraiment définie la structure de la molécule, mais plutôt des interactions faibles, qu'on appelle non covalentes, qui permettent à plusieurs molécules de rester collées les unes avec les autres. Et ces complexes, ils pourraient exister de façon temporaire à température ambiante, mais ils seraient immédiatement détruits, reformés sous une autre forme. Alors que là, on les gèle à basse température et on peut les étudier. Donc, pour revenir au problème que vous évoquiez tout à l'heure de pharmacologie, pas sur cette expérience, mais sur une expérience au Japon, avec des collègues japonais, on a regardé un complexe formé entre une petite chaîne peptidique qui symbolisait le site d'interaction entre l'adrénaline et son récepteur dans le corps humain, et on a regardé comment l'interaction était différente pour l'adrénaline naturelle qu'on a dans le corps et pour la
LD.
Voilà, et pour la D.
Droite.
Voilà, droite, et c'est pas du tout la même interaction. Donc ça apporte des informations sur la spécificité en fonction de la chiralité des interactions entre l'adrénaline et son récepteur.
En vous écoutant livrer toutes ces informations, explications, on sent qu'il y a une émulation et une certaine excitation à défricher ces mécanismes à échelle vraiment moléculaire. C'est quelque chose qui vous, au-delà de caractère vraiment très rigoureux, mais c'est quelque chose qui vous amuse, entre guillemets.
Ah oui, ça m'amuse. On garde une âme d'enfant quand on est chercheur. Hein. On démonte la montre pour savoir ce qui fait tic-tac à l'intérieur. Non, c'est vrai qu'il y a une émulation. Et puis, il y a aussi le côté travailler en équipe avec des compétences complémentaires qui fait que les choses avancent de façon très plaisante. Et puis aussi des réseaux au niveau national ou international qui fait qu'on progresse plus vite ensemble, quoi.
Merci Céline Lauzen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. On l'entendait dans ce reportage hier, une émulation dans la chimie de synthèse. Michel Morange, si on parvenait un jour, imaginons, à créer une cellule miroir, est-ce que cette cellule pourrait s'adapter dans un monde qui n'est pas le sien?
Ça dépend comment on l'a fabriquée. Parce qu'effectivement, cette pauvre cellule, elle ne trouvera pas beaucoup d'aliments dans l'environnement. Donc, ça veut dire éventuellement qu'il faudrait qu'elle soit capable de convertir les aliments qu'elle trouvera, c'est-à-dire par exemple des acides aminés provenant d'organismes morts, mais qu'elle les fasse changer de forme pour pouvoir les incorporer à son propre métabolisme. Donc il y a d'abord cette question de la survie, ou alors il faudra qu'elle ait tout pour fabriquer toutes ces protéines, tous ces acides nucléiques, toutes ces macromolécules, de rien, ou de rien voulant dire d'éléments chimiques absolument de base. Donc il y a beaucoup où on lui fournit, mais alors ça sera l'avantage peut-être, parce que comme on lui fournira ce qu'il faut pour qu'elle puisse pousser, ça veut dire que hors du laboratoire, elle ne pourra pas se développer. Donc ça peut être une chance aussi pour limiter éventuellement des gaz sur l'environnement. Il y a plein de problèmes qui vont se poser.
Hervé Schneweil, sur cette question d'un monde adapté à une cellule miroir.
Alors il faut voir les choses dans une dynamique temporelle. Et il faut voir les choses dans ce qu'est la réalité du vivant. La réalité du vivant, c'est pas juste, on parlait à l'instant d'une montre qu'on démonte, c'est pas ça le vivant, c'est pas juste des engrenages, et il suffirait de démonter un boulon ou de dévisser pour que tout s'arrête. Le vivant, c'est des interactions entre différentes molécules ou entre différentes cellules, et ces interactions, elles vont dépendre de l'environnement dans lequel elles sont. Alors, il y a deux grandes hypothèses qui ont été mises à l'épreuve dans le rapport qui a accompagné l'article. Première hypothèse, c'est de se dire, bien sûr, cette bactérie qui tourne en miroir, elle va pas trouver dans l'environnement ce qu'il lui faut. Mais elle va pas non plus être repérée par les processus habituels de destruction. Le système immunitaire va pas les reconnaître, les pathogènes vont pas la reconnaître. Et donc, si elle prend son temps, elle va pouvoir, très doucement, et très doucement, ça peut être plusieurs heures, plusieurs jours, utiliser des sucres de son environnement ou des métabolites de son environnement, et à son rythme, elle va arriver à les transformer, même s'ils sont s'ils tournent dans le mauvais sens, elle va quand même suffisamment les utiliser pour arriver à survivre, alors avec un rythme de survie beaucoup plus lent, mais elle va arriver à survivre. Et puis, de petit à petit, comme il n'y a rien pour l'arrêter, ça va être comme la naissance de la vie sur Terre. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que les premiers proto-organismes, puis ensuite les archées, puis ensuite les bactéries arrivent à émerger. Et on n'est pas dans un jour, l'autre jour. On est dans des processus de temps qui peuvent durer très longtemps. La deuxième dimension qui a été explorée, c'est qu'un des principes du vivant, c'est d'être capable non seulement de s'adapter à son environnement. Le bios, c'est être en interaction avec l'extérieur pour pomper l'énergie dont on a besoin pour se reproduire, mais également de tester des variantes qui vont permettre d'améliorer. Donc, il n'y a aucune raison fondamentale qui ferait que cet ADN qui maintenant tournerait à gauche ne soit pas capable de muter comme l'ADN qui tourne à droite. Et à partir de là, ça prendra peut-être 1 an, 10 ans, 1000 ans, mais rien n'interdit de penser que des mutations permettront une meilleure adaptation, y compris à des questions d'environnement. Et puis, il ne faut pas limiter l'environnement, il ne faut pas limiter le vivant à l'humain. Peut-être que cette bactérie miroir s'attaquera à des plantes. Mais en changeant la propriété de ces plantes, elle changera aussi l'environnement. Et en changeant l'environnement, elle changera l'environnement des animaux. Et en changeant l'environnement des animaux, il y a un animal qui nous intéresse particulièrement, c'est nous, c'est l'être humain. Donc, les différents scénarios qui ont été élaborés sont des scénarios qu'il faut voir dans la dynamique du vivant, en tout cas de ce qu'on en connaît aujourd'hui. Et il faut toujours se rappeler qu'on est des grands ignorants, qu'il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. Et puis, adapter à la possibilité qu'on connaisse, c'est-à-dire comment la vie est apparue sur Terre et comment elle a évolué.
Justement, dans cette dynamique du vivant, dans les trois branches principales, on a donc comme les prokaryotes, cellules sans noyau, les eucaryotes, cellules à noyau, puis on a aussi les archées qui possèdent des lipides inversés par rapport à ceux généralement retrouvés dans le vivant. Les archées ne sont quasiment jamais pathogènes, alors pourquoi imaginer que toute forme vivante en miroir constituerait nécessairement un danger redoutable ?
Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être agressif qui peut compter. Le simple fait de se multiplier peut suffire. Vous avez la fameuse histoire de ce lapin, ce couple de lapins abandonnés sur une île en Océanie et qui, en quelques années, a totalement ravagé parce qu'il n'y avait pas de prédateurs, donc ils se sont multipliés et puis ils ont mangé tout ce qu'ils trouvaient à manger, ils ont ravagé l'île et cette île verdoyante était devenue un désert. Parce que la prolifération de l'espèce avait fait que toutes les ressources avaient été consommées. Donc, il peut y avoir différentes visions qui ne soient pas juste la vision directe, au fond, le style Covid. Enfin, on a vu avec le Covid que vous voyez l'illustration du vivant qui mute et qui crée un nouveau virus. Alors, ça peut ne pas être un pathogène direct, ça peut être juste que, imaginons que ça nous consomme notre oxygène, avec quoi on respire après. Imaginons que ça nous consomme une quantité d'eau colossale, on est déjà en manque d'eau. Imaginons que ça accélère le changement climatique. Voilà. Il faut faire des scénarios. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'assurance en disant quand on prend une assurance, c'est pas parce qu'on va avoir un accident, c'est parce qu'on a un risque. La question fondamentale de la responsabilité scientifique, c'est que à partir du moment où on s'engage, il y a le principe hippocratique de base, d'abord ne pas faire de mal. Ensuite, le principe éthique, quelle est la balance bénéfice-risque, où sont les bénéfices, où sont les risques. Et puis, il y a la dimension, bien évidemment, de la justice, c'est-à-dire à cette liberté colossale qu'a le chercheur de pouvoir développer des recherches, cette fameuse maxime de Ricoeur, à ma liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. C'est-à-dire que comment ce que je fais impacte aussi la liberté de l'autre. Et donc, on en arrive à cette question fondamentale que devant toutes ces technologies émergentes, il faut absolument engager un dialogue entre scientifiques pour évaluer la réalité des potentialités et des risques, et puis un dialogue avec la société.
Alors selon cette tribune parue dans Science, et c'est ce collectif de 38 scientifiques, si jamais une bactérie de ce type-là venait à s'échapper d'un laboratoire, elle pourrait être capable, je cite, d'éliminer la vie sur Terre. Alors, faut-il vraiment tout arrêter ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de la vie miroir qui anime la communauté de la biologie de synthèse. On en parle avec Michel Morange et Hervé Schneweiss. On vient de parler des risques que représente la fabrication des molécules éloignées de notre arbre de vie. On a parlé également des risques et des craintes par tout un collectif de chercheurs. Est-ce que ces risques ne sont-ils pas surestimés, Hervé Schneweiss ? Est-ce que on ne risque pas, finalement, d'arrêter tout un pan de recherche scientifique ?
Alors, il ne s'agit pas du tout d'arrêter un pan de recherche scientifique. Il s'agit de réfléchir aux conséquences que ça aurait. Et justement, on s'y prend 10 ans avant. C'est exactement ce que nous avons fait dès les années 2014-2015 pour l'édition du génome. On a dit quelles pourraient être les conséquences. Conséquences sur l'environnement, c'était la technique qu'on appelle de forçage génétique. Conséquences sur l'être humain. Aujourd'hui, on est en 2025, on voit qu'on a d'un côté des thérapies géniques formidables qui sont apparues, formidables, modulo, le coût de ces thérapies, mais c'est un autre débat, et qu'on a réussi à maîtriser les risques depuis l'épisode très triste de Zhang Yue. Aucun autre scientifique fou n'a cherché à modifier le génome d'un être humain et on réussit à contrôler les choses. Pourquoi ? Parce qu'on anticipe, parce qu'on prévoit les choses. On fait la même chose dans d'autres champs, les données massives, la question de l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est parce que les scientifiques qui sont au premier rang, parce qu'ils voient la science en train de se développer, sont capables d'essayer d'anticiper, de prévoir des scénarios et de prendre leurs responsabilités, qu'à un moment, ils alertent pour que le scénario du pire ne survienne pas, quelles seront les mesures à prendre pour que cela ne survienne pas et pour que le meilleur survienne. C'est ce qui a été fait dès Asil Omar en 1975 pour les techniques de modification de l'ADN. Et toute la communauté de la biologie moléculaire à l'époque s'est arrêtée pendant un an pour définir les risques et pour définir les mesures à prendre pour répondre à ces risques. Et ça donne aujourd'hui encore toutes les mesures qu'on appelle les laboratoires L1 ou P1, L2 ou P2, L3 ou P3, etc. pour nous, scientifiques, protéger des risques et protéger bien évidemment les autres. Donc la conscience scientifique, conscience qui a peut-être à un moment émergé trop tard avec Oppenheimer et les savantes qui avaient fait la bombe atomique et qui ont pensé après et qui se sont dit « Ah là là, quelles sont les conséquences de ça ?» Eh bien, depuis, on essaye de penser avant et d'anticiper ce qui pourrait se passer pour que ça ne se passe pas.
Parce que, comme vous dites, ce qu'il y a de positif et d'intéressant dans cette période, c'est que les précédentes initiatives de moratoire qui avaient porté sur des techniques, mais c'était des techniques qui étaient déjà au point, je pense notamment aux recherches autour de la reconstitution du virus de la grippe espagnole, Hervé Schneweiss.
Ah, ça c'est des discussions effectivement très importantes qu'on a eues dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Est-ce qu'il fallait reconstruire le virus de la grippe espagnole et est-ce qu'il fallait vraiment avoir des travaux sur les éléments qui font la plus forte virulence, donc la plus forte agressivité sur les virus ? Et la question était, Ah ben oui, mais si on arrive à faire ces travaux et si on les publie, on donne la recette de comment détruire. Alors, la grippe espagnole, il faut rappeler que ça a détruit, ça a tué 50 millions de personnes à travers le monde entre 1917 et 1923-24. Puis ça s'est éteint. Bon, si on reconstruit ça, comment on fait pour éviter encore 50 autres millions de morts, voire 100, voire 200 ? Voilà, alors, pour comprendre pourquoi Ebola a fait 60% ou 70% de morts, et que le Covid ne faisait que 0,2 à 0,4% de morts, oui, il faut étudier la virulence des virus et essayer de comprendre. Mais là, on a des cas pratiques et on sait ce qu'on fait, c'est dirigé, et c'est évidemment encadré avec les laboratoires de haute sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pourquoi aller chercher les ennuis quand personne ne demande rien.
Et puis par rapport à la grippe espagnole, on avait les grandes revues mainstream, Science, Nature, qui ont dit que si des articles sur ces recherches-là leur parvenaient, elles ne les publieraient pas. Et elles ont pris donc leur responsabilité en tant qu'éditeur. Vous souhaitiez réagir, Michel Morange ?
Oui, non, parce que c'est intéressant de voir les dates que rappelait Hervé. Asile Omar, 1975. Là, dans très prochainement, il va y avoir un grand colloque à l'Institut Pasteur, justement, où on va, en quelque sorte, réfléchir aux conséquences de ces expériences 50 ans après. C'est un petit... Bon, amusant de voir que 50 ans après, on se pose les mêmes questions. Et en même temps, comme Hervé l'a bien dit, on se les pose plus en amont qu'on a fait précédemment. Et ça, je pense que c'est très important.
On arrive à la fin de cette discussion, mais justement, à l'Institut Pasteur, Hervé Schneweis, début juin, lors de cette première conférence internationale, quels seront les débats qui vont avoir lieu ?
Ben en fait, il va y avoir surtout 5 ateliers qui vont être créés. Et c'est surtout ça. Ces 5 ateliers vont aller depuis quels sont les risques effectifs, donc quelque chose de très technique, où on en est de ces recherches, quels sont les vrais risques, jusqu'à des ateliers qui portent sur comment le prévenir, mais pas seulement comment le prévenir au niveau de la sécurité du laboratoire, comment le prévenir, quel type de surveillance, quel type de suivi, quel type de financement, quel type de financement sur les contre-conséquences. Et puis comment le suivre, quel type de communication, quel type d'information pour ne pas effrayer la population pour rien. On a dit que c'était des recherches qui pourraient aboutir dans 10 ou 30 ans, mais en même temps pour informer nos concitoyens qui ne découvrent pas du jour au lendemain ce qui existe. Et puis, dernier point fondamental, et on revient là encore à Oviedo, la convention d'Oviedo, 1997, l'article 28. Devant toute technologie émergente en biomédecine, il faut une délibération publique. Pas seulement de l'information, pas seulement des débats, de la délibération. C'est-à-dire qu'on soit capable ensemble, et au regard des tenants et aboutissants, de prendre ensemble la décision.
Enfin, si pendant la pandémie, on avait soumis au débat public la pertinence des vaccins ARN messagers, on s'en serait peut-être pas sorti.
Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective.
Très bien, très beau mot de la fin. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandre Morales et sa chronique. Mais merci à vous deux de nous avoir suivis tout au long de cette heure. Maintenant, on change de sujet. C'est la chronique avec science. La pollution aux microplastiques touche tous les grands fleuves européens.
Face à la pollution aux microplastiques, comment les fleuves européens se portent-ils ? Eh bien, d'après la mission TARA Microplastiques, tous seraient effectivement pollués. TARA, c'est une fondation qui aide les scientifiques à faire des expéditions dans le monde entier à bord de la goélette éponyme. Et si la mission s'est intéressée aux microplastiques, c'est parce qu'on sait que leur pollution s'étend très loin à travers les mers et les océans. En 2014, une autre mission TARA avait d'ailleurs montré que la Méditerranée était la mer la plus polluée au monde par les microplastiques. Et en sachant que 80% de la pollution vient de la Terre, il faut comprendre comment elle est acheminée jusqu'aux océans. C'est ce qu'a tenté de faire cette coalition de scientifiques en étudiant 9 des plus grands fleuves européens, la Loire, la Seine, le Rhin, le Rhône, la Garonne, l'Elbe, la Tamise et le Tibre. Jean-François Guiglione est directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer. Il a été le coordinateur de la mission TARA Microplastique.
En 2019, quand on a commencé l'expédition, on n'avait vraiment aucune idée de la pollution plastique dans les fleuves, sous quelle forme elle était, est-ce qu'on est déjà sous forme de microplastique. Puis on avait travaillé déjà sur les phénomènes de transformation de ces gros déchets en microplastiques en mer, sous l'influence des UV, sous l'influence des vagues. Dès qu'on est rentré dans les fleuves, Notre premier constat, c'était de montrer que les microplastiques étaient déjà présents dans les fleuves. Alors, l'enjeu majeur, en fait, dans ce travail, c'était d'être capable d'utiliser le même protocole sur 9 des plus grands fleuves européens. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de protocole. Donc, il a fallu qu'on adapte un petit peu les travaux qu'on savait faire en mer. On est parti de la mer, on est remonté vers l'estuaire, puis dans les eaux moins en moins salines. Et on est allé voir si on avait l'influence d'une grande ville. Donc, on a pris la plus grande ville qui était proche de l'estuaire, pour voir en amont et en aval de cette grande ville, est-ce que l'impact des villes était important.
Alors pour attraper ces microplastiques, les scientifiques ont utilisé un filet avec une maille inférieure à 1,5 mm et qui attrape par conséquent tout ce qui est supérieur à cette taille-là. Ensuite, ils ont pu compter ces plastiques et puis travailler sur leur physique et leur chimie. Et ils ont estimé qu'on retrouve en moyenne 3 microplastiques par mètre cube. Rapporté au débit de la Seine par exemple, ça fait environ 900 microplastiques par mètre cube par seconde. Donc si vous regardez un mètre cube d'eau de la Seine, à chaque clignement de paupière, 900 microplastiques passent sous vos yeux. Ça, c'est pour les gros microplastiques, ceux pour lesquels on avait déjà quelques données. Mais le grand intérêt de cette publication réside dans l'étude de particules bien plus petites, celles qui sont inférieures à 0,5 mm et qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Pour les analyser, il faut amener les échantillons au laboratoire et mener des expériences de chimie plus poussées. Le verdict est alarmant, bien sûr, la masse de ces petits microplastiques est jusqu'à 1000 fois supérieure à celle des gros. C'est la principale découverte de ce papier, puisqu'on n'imaginait pas que, mis ensemble, la masse de tous ces petits plastiques puisse égaler et surpasser à tel point celle des plastiques plus grands. Mais de quoi s'agit-il alors? Ces petits microplastiques proviennent de la dégradation des déchets, mais ils sont aussi et surtout issus de l'usure des plastiques qu'on utilise tous les jours. Pneus de voiture, vêtements, bouchons de bouteilles par exemple.
Les effets de la présence de ces microplastiques sont particulièrement inquiétants. Le premier, en fait, ça va être la toxicité, parce que un plastique, on imagine ça comme étant quelque chose d'assez neutre. En réalité, on a pu montrer qu'on avait plus de 16 000 molécules chimiques qui étaient dans les plastiques du commerce. Et par nos travaux, on a réussi à montrer qu'on avait à peu près un quart de ces 16 000 molécules chimiques, donc à peu près 3 000, qui étaient toxiques pour les animaux. La toxicité du plastique, le fait que le plastique devienne dangereux, justement, c'est quand il arrive à des tailles aussi petites, il va être ingéré dans notre organisme. Et là, c'est les molécules toxiques qui sont transportées par ces plastiques qu'on a ingérés qui vont devenir dangereuses pour les organismes. Les effets, en fait, ils sont assez bien connus maintenant. Il y a beaucoup d'effets qui ont été décrits sur tous les échelons de la chaîne alimentaire, puisque ces plastiques sont tellement petits qu'ils vont être mangés par n'importe quel animal. On peut avoir des effets sur la reproduction, sur la sexualité, sur les hormones. Donc, il y a énormément d'effets physiologiques qui ont été démontrés.
En plus des nombreux polluants qu'ils charrient et des effets nocifs des microplastiques, l'étude a mis en lumière la capacité de certaines bactéries virulentes à se fixer à eux. Ça veut dire que ces microplastiques permettent la propagation de bactéries pathogènes qui peuvent amener des maladies d'un écosystème à un autre. Face à ce constat, les scientifiques travaillent sur un traité mondial du plastique. Son objectif, la réduction de la production de plastique, bien sûr, et puis la transparence sur les éléments chimiques utilisés dans l'industrie.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.